Est-ce que pour vous, la démocratie est une chose qui s'apprend ou est-ce que c'est un acquis, de façon générale?
C'est un truc qu'il faut apprendre et transmettre au niveau des parents, des professeurs, de partout. Si, des professeurs. Ouais. En éducation civique, par exemple, au collège, c'est pas au lycée spécialement, c'est dès notre plus jeune âge, école primaire, maternelle, c'est ça surtout.
Et d'après vous, est-ce qu'on vous laisse suffisamment la place, ça, au lycée? Est-ce qu'il y a davantage de conseils lycéens? Est-ce qu'il y a davantage de... Est-ce qu'il y a suffisamment de responsabilité, ça, au lycée?
Tous des magouilles à droite à gauche et ils s'en sortent toujours bien. Hein. On parle de notre ancien président, M. Sarkozy, bien sûr, et d'autres. Et on a changé de gouvernement et c'est toujours la même chose. Et on se demande comment ça va aller. Quoi. C'est de pire en pire. Le creux entre les personnes riches et les personnes pauvres, c'est le fossé en train de se creuser de plus en plus.
Ouais, plus d'égalité sociale, plus de justice sociale.
Complètement, ouais. Surtout pour les gens des quartiers, etc. Ça devient vraiment difficile, quoi, je pense. Et on est en train de payer, de toute façon, tout ce qui se passe en France, pour moi, on est en train de le payer de notre manière de gouverner depuis une trentaine d'années. C'était sûr que ces gens qu'on mettait un petit peu de côté, un jour ou l'autre, ça allait pas bien se passer du tout.
Il y a des choses qui tendent à se mettre en place, notamment des gens qui proposent des assemblées populaires et des gens qui seraient élus par tirage au sort pour contrôler un petit peu l'action politique et qui auraient un avis. Est-ce que c'est une chose qui vous semblerait positive?
Oui, que le peuple, ils sont un peu plus une voix qui porte, on va dire ça comme ça, que de plutôt d'aller voter pour des gens qui nous représentent absolument pas.
Une dernière question.
Ouais.
D'après vous, est-ce que la démocratie, c'est une chose qui s'apprend ou c'est quelque chose ou c'est un acquis?
Juste qu'il faut que ça soit égal pour tout le monde, c'est juste ça, quoi. Par rapport à mon job, je vois exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours et je vous assure que c'est pas possible. Le fossé, il est énorme. Quand on voit que les milliardaires les plus riches ont plus d'argent que tout le reste de la planète, enfin, il y a un moment, le fossé, il faut que ça s'arrête, quoi. De toute façon, enfin, moi, pour revenir un peu à problème du djihadisme, etc. Je trouve que c'est nous qui les avons créés, ces gens. C'est nous qui les avons créés, clairement. On a mis ces gens dans des quartiers pourris. Je suis ancien facteur, je sais de quoi je parle. Et c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Pas possible d'avoir pris des gens pour reconstruire notre pays et derrière les mettre comme ça dans des cages à poules, excusez-moi du terme, c'est ce que je pense. Avec des discriminations à l'emploi, des discriminations... en discothèque, des discriminations tout le temps, c'est pas possible, quoi. Voilà ce que je pense.
Alors, on l'entend, Émilien, dans ce reportage, dans les rues de Rouen, des propos très durs et qui vont tous dans le même sens, finalement.
Ouais, c'est vrai, on sent une lassitude, on sent une vraie volonté de plus d'efficacité... De plus de proximité aussi de la part des politiques.
Ouais. Et c'est vrai que ce mot lassitude est revenu à plusieurs reprises. Et puis avec aussi des choses alors qui je pense qu'il faut essayer de prendre aussi de façon positive, de se dire il faut amener de nouvelles idées et il faut aussi apprendre. Cette démocratie, elle doit s'apprendre. Alors là, j'ai quelques chiffres. Alors, tous les deux ans, je crois, il y a un baromètre de la concertation et de la décision publique. Donc la dernière édition date de 2014. Et donc il y a deux ans, les Français étaient à 76% à dire qu'il faut développer les démarches de démocratie participative, qui sont 46% à vouloir être impliqués pour les prises de décision concernant le budget et les dépenses publiques. Et puis finalement, on voit que dans la réalité, alors pour le coup, l'exemple de quelques instances dans la région rouennaise, on peut pas généraliser, mais finalement, est-ce que vous sentez que vous êtes en capacité d'apporter ces nouvelles idées, d'être vraiment force de proposition, ou si on... Louise.
Allez, Louise.
Je pense pas que je puisse être une force vraiment d'opposition.
Alors, c'est un beau lapsus. Je parlais de force de proposition et finalement, c'est force d'opposition qui vous vient à la bouche. C'est intéressant. C'est que vous ne sentez ni force de proposition, ni force d'opposition finalement. Donc, un espèce de no man's land.
tout ce que je sais, c'est que je ne lâche jamais le morceau. Parce que en conseil de quartier, par exemple, on discute de plein de choses.
Ouais.
Et puis deux mois après, on n'en parle plus, ça ne s'allume plus. Donc moi, ça m'énerve. J'aimerais que tout soit solutionné, ce soit écrit, la réponse a été apportée à telle date, etc.
Ouais.
Donc on survole tout et on n'avance pas.
Alors, pour en revenir à la chronique de Marie tout à l'heure, s'il faut se battre, ne jamais rien lâcher, est-ce que vous vous sentez être devenue une militante pour l'écoute ou la parole donnée aux habitants?
Oui, bien sûr, mais quand j'entends militant, j'entends comment je veux dire,
militaire, l'armée,
mais j'entends la CGT, tout ça. Moi, je n'aime pas ce genre de militantisme parce que je trouve que on est suffisamment grand garçon pour militer sans avoir des carcans au-dessus de toi.
Oui, mais en même temps, tout à l'heure, Marie nous alertait sur le fait que est-ce que être citoyen, c'est suffisant pour porter sa voix et se faire entendre? Vous, quand vous participez à ces instances, vous êtes citoyen, et est-ce que votre voix porte suffisamment à vous écouter? Peut-être pas forcément, peut-être...
Peut-être pas forcément, mais je pense qu'il faut ne jamais baisser les bras et toujours revenir sur une décision qui n'a pas, sur un sujet qui n'a pas trouvé sa réponse.
Alors Daniel, vous disiez que vous trouviez que justement, ne vous inquiétez pas, ça fait l'ambiance sonore du studio quand ça couine. Et comment, qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux pour que cette démocratie participative, à laquelle vous tenez quelque part, parce que vous êtes toujours là à participer à ces instances, pour qu'on passe un cap et qu'elle ait vraiment une réelle place dans la prise de décision?
L'idée est bonne, mais bon, il faut encore plus de démocratie, c'est-à-dire qu'il faut que les gens décident par eux-mêmes, mais de A à Z, et pas leur laisser des miettes ou des brindilles de décisions qui n'en sont pas, en fin de compte.
Alors Francis disait tout à l'heure, la démocratie participative est en devenir. Alors ce devenir, qui doit tenir la plume pour que ce devenir s'inscrive dans le présent?
Ce sera un autre que moi, je peux vous le dire.
En tout cas, est-ce que la plume doit plutôt être du côté des citoyens ou d'un changement radical des politiques pour être en capacité de...
Non, les politiques ne changeront pas parce que... C'est les gens qui sont payés déjà.
Ouais.
Alors quand vous êtes payé pour faire de la démocratie, c'est pas très démocrate. Hein.
Mmh. Ouais.
Je voudrais un pays où tous les élus soient au même tarif, quoi. Mmh. Enfin, au tarif du boulot qu'ils avaient avant.
Oui. Alors.
C'est tout.
Et Francis. Tout
c'est la porte.
Voilà, ça va devenir notre petit jingle.
Je ne suis pas si vieux que ça, je grince pas encore autant.
Voilà, ce ne sont pas les invités qui grincent. Vous êtes militant associatif en matière d'environnement et donc citoyen. Donc vous êtes avec vos deux casquettes dans cette instance participative. Ce devenir, vous l'imaginez comment? Quels sont les ingrédients qui manquent dans cette recette? Parce que finalement, tout le monde a l'air d'aimer la promesse du plat. Peut-être la tarte aux fraises avec les fraises et la chantilly, n'est-ce pas Marie? Qu'est-ce qui manque comme ingrédient?
Je repartirai un peu du reportage et puis effectivement de l'introduction de Marie. Je dirais qu'une fois qu'on a dit les choses, que nous avons exprimé nos contraintes, nos contrariétés, il faut agir. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, l'engagement, il peut être syndical.
Ouais.
Effectivement, il peut être plutôt environnementaliste. Il peut être aussi dans les actions de solidarité. On voit bien, ça se développe bien, ça fonctionne bien. Et là, à ce niveau-là, effectivement, la démocratie, elle existe. Elle s'exprime. On a essayé au niveau du politique. On a essayé, mais on a voulu y mettre quand même certains jalons. On a voulu... que tout le monde passe sous les mêmes fourches codines, je dirais, effectivement, et c'est là où ça ne va pas. Il faut, chacun de nous n'a pas la même expression. Il faut laisser s'exprimer chacun suivant son niveau de connaissance. Et ça veut dire quoi? Que lorsqu'on a un projet, si je reviens sur un projet, il faut que le projet soit étudié, présenté tel qu'il l'est, que l'alternative qui peut être développée par les associations ou par le KIDAM, moi, par exemple, soient étudiés au même niveau.
Oui, avec le même niveau de crédibilité, le même type d'analyse.
Voilà. J'ai sur des combats un peu précédents, travaillé notamment avec beaucoup d'experts, des experts environnementalistes, et on a fait des contre-expertises environnementales. Mmh. Ces contre-expertises environnementales ont permis de faire que le projet ne se fasse pas de tel côté ou tel côté d'une infrastructure. C'est ce qui doit ressortir, c'est qu'à la limite, l'intelligence, elle est collective. Mm-hmm. Et l'élu ne peut qu'être apprécié. Et c'est là où le désintérêt croissant d'une partie des citoyens à l'égard du fonctionnement de nos institutions, il est fort. C'est que l'élu, pour l'instant, ne prend pas en compte cette intelligence collective. Mmh. Alors qu'il essaie de le mettre dans les conseils municipaux d'enfants, par exemple.
Ouais.
Il essaie aussi de le mettre...
C'est moins dangereux, les enfants.
C'est moins dangereux. Je ne sais pas, un enfant bien éduqué. Alors, s'il a subi l'éducation que nous lui donnons, nous, en tant qu'environnementalistes, en éduqués à l'environnement, j'espère qu'un jour, on sera tous, effectivement, écologistes. Mmh. Je le dis comme je le pense. Mais effectivement, non, l'enfant se fait... Moi, je crois que l'enfant est très fort et beaucoup plus droit dans sa position.
Alors, ce que j'entends aussi dans vos propos, Francis, c'est que finalement, il faudrait que toute la société, dans sa diversité, s'exprime et fasse remonter son expression pour, en gros, alors on revient tout à l'heure à Daniel qui disait qu'il aimait les rapports de force, pour faire sentir à la sphère politique que les rapports de force sont présents sur tous les sujets, sur tous les territoires, et donc qu'ils se sentent obligés, peut-être au sens noble du terme, de prendre en compte ces autres voies. Marie, tu veux réagir ?
Oui, en gestion de projet, c'est ce qu'on appelle l'expertise d'usage. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'habitant vit quotidiennement dans son environnement économique, social, vraiment, et c'est ce retour-là que normalement les conseils de quartier doivent prendre en compte. Mm-hmm. Et c'est dans la mesure où, dans la gestion d'un projet, il y a plein d'étapes, et il y a plein de gens qui écrivent plein de trucs, il y a plein de formations, c'est vraiment une des étapes essentielles que l'expertise d'usage, c'est de dire on fait une contre-expertise parce que personne n'a la science infuse et qu'à un moment donné, partager, être plusieurs à réfléchir sur un projet, ça me permet d'aller plus loin. Mm-hmm. Et l'expertise d'usage, elle est aussi, c'est le rapport au citoyen.
Ouais.
Voilà, c'est lui qui vit tous les jours sur un secteur géographique ou qui se déplace tous les jours d'un point A ou un point B. Mm-hmm. Et cette expertise d'usage, elle est fondamentale.
Francis.
Oui, je reviendrai d'ailleurs sur le reportage
d'Emilien.
Effectivement, il y a un moment, il a été posé le contexte d'assemblée populaire.
Oui.
Et effectivement, les jeunes de 25-30 ans, cette génération-là, que je côtoie un petit peu, sont pour une forme de tirage au sort à un moment donné. Et je crois que c'est aussi peut-être vers ces solutions qu'on doit envisager l'avenir pour effectivement que la démocratie soit réelle.
Ouais.
C'est quand même très mal parti là, parce que c'est les grosses entreprises qui mettent en place les politiques pour défendre leurs intérêts. Donc il faut redescendre sur terre à un moment et se rendre compte que, je disais les enfants, je disais pas de mal des enfants, je dis juste que les enfants, c'est très facile de leur donner la parole puisque ce qu'ils vont faire va se limiter à quelque chose d'un arbre qui va être planté ou d'une décision totalement sommaire et superficielle. Ce qui est très grave, c'est que la politique, elle part complètement à l'opposé de ça. Les hommes politiques que vous avez face à vous dans vos réunions participatives et de concertation n'en ont rien à foutre des quidam, rien à faire des gens qui sont face à eux. Ils ne servent que des intérêts qui sont propres. On en a eu, tout à l'heure, un président de la République a été cité, mais il y en a eu bien d'autres avant aussi qui étaient totalement à la merci des grosses entreprises. Moi, je...
Et c'est et pas de la naïveté, fois, c'est que... quand même de l'utopie.
On est d'accord, c'est pas de la naïveté.
Après, pour réagir à tes propos, Emmanuel, il faut aussi, faire le distinguo entre le politique et les politiques. On a dans des territoires des élus qui sont parfois d'anciens conseillers de quartier qui un jour se disent bah, moi aussi je veux participer par le vote, par l'élection au projet et qui sont engagés. Et d'ailleurs, il y a eu des avancées sur des territoires parce que des élus ont défendu ces instances participatives, si même on entend bien qu'elles sont loin d'atteindre leurs résultats. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans le même panier, parce qu'on en connaît sur de nombreux territoires.
Tout le monde n'est pas dans le même panier. Oui. Arriver à une certaine envergure, c'est quand même un seul et même panier.
Ben, la dernière fois, je crois qu'on parlait du distinguo entre exercer le pouvoir et la jouissance du pouvoir. Et c'est peut-être un moment où ce déclic se fait qui pose question. Je vous propose une nouvelle pause musicale. Vous êtes toujours dans Ton Libre sur HDR et juste après, la chronique d'Emmanuel.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée, où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tue, escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, vient sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche bord, nettoie. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Et viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Étienne Dao, sur mon cou. Peut-être que le ciel de rose de la démocratie, nous l'attendons. Il est là, peut-être sera-t-il participatif. Ne vous inquiétez pas.
En fait,
nous sommes en live sur Periscope. Je me suis dit, tiens, voilà, on va proposer sur les réseaux sociaux de suivre l'émission de radio avec leurs oreilles et pourquoi pas de l'intérieur, depuis le studio. Ils vous entendent.
Ça s'appelle la télévision, Rebecca.
Voilà, c'est ça. Donc, dans ton livre, il nous reste une dizaine de minutes avant de finir, de continuer, de poursuivre et d'achever notre discussion sur la démocratie participative. Emmanuel, une chronique ?
Voilà, une chronique. Rien à voir.
Oui, rien à voir.
Rien à voir. On ne m'avait pas donné le thème.
Oui, ben je fais des surprises, je fais ce que je veux. Je suis pilote. Le pilote ne donne pas toutes les informations à son équipage.
En même temps, si quelqu'un trouve un rapport, ça peut être pas mal.
On va essayer. Bon.
Bon, ça s'appelle Tarantino. On s'est fait des Tarantino avec Emilien, au moins un en tout cas. Les 8 salopards en VO. Écran géant et panoramique. Pellicule, 70 mm. Un entracte, le temps de changer de bobine. Le distributeur n'ayant installé qu'un unique projecteur. Salle pleine. Cinéma Marignan, en bas des Champs-Élysées, Paris. Seule salle où l'on projette le film en pellicule, 70 mm, pendant toute la durée de son exploitation. Ailleurs, on le joue en numérique. Écran moins large, durée raccourcie. Alors pour cela, y être. Les 8 salopards, je l'ai déjà vu 7 fois. 6 fois en version numérique, grande salle, puis plus petite. Bon son, puis moins bon. C'était à l'Omnia à Rouen, c'était épouvantable à la fin. Et une fois en pellicule, 70 mm. Oui, je ne vais pas ni au pâté, tout ça. C'est que l'Omnia à Rouen. À la fin, on a fini dans un cagibi, quoi. Et une fois en 70 mm. Salle pleine, disais-je. Assis au premier rang, rangé de gauche, face à l'écran. Plus un siège de libre. Ça faisait longtemps. La salle devient rouge, la montagne se dessine. Une diligence au loin, gravée dans le sang. Ouverture. La musique emplit la salle, les lumières s'éteignent, les gens se taisent. Premier temps. Ne pas parler ici de ce que je trouve dans les films de Tarantino. La récurrence, la citation, le bavardage incessant aussi. Quelque chose qui se tend, s'étend, tire, se tord et se retire, se détend. Paysage de neige. Plusieurs plans annonçant les scènes qui suivent, tournées en extérieur. Et tout commence. Le fil se tend, la corde raide, le flingue tire, on s'étend. La porte que l'on cloue, signe de tempête, le blizzard, la neige, le froid. Un temps. Référence faite à Akira Kurosawa et à son film « Les Sept Samouraïs ». Un lieu clos, espace carré, découpé en 9 sous-espaces carrés aussi. Lieu où les 7 samouraïs sont réunis par les villageois opprimés pour les engager. Lieu où les 8 salopards se retrouvent cloîtrés. Chasseurs de primes et chassés. Et dans chaque sous-espace, une scène. Et dans chaque sous-espace, la caméra se place. Chaque acteur y tient rôle, y meurt, aussi chez Tarantino. Et de la cabane, la mercerie, aucune des parois ne disparaît quand il faut de l'espace pour tourner. Montrer les latéralités. Voir devant et sur les côtés dans un même plan. Il n'y a pas de décor, pas d'écran de bois tenu par des renforts. On tourne en rond dans le plan. La caméra jamais n'en sort. J'ai refait le plan de l'espace, y dessinant la place de chacun. 1. L'entrée et son seuil à la porte sans cesse clouée et déclouée. 2. Le poêle au café fumant que surplombent des sucreries torsadées et rondes, la pendaison. 3. Le lit des précautions, les étagères filtrant la lumière et la lettre du président. 4. La cuisine, le café en grains, des tables pour le repas, une guitare et un piano. En 70 mm, il y a aussi un poulet. En 5. Le mur en pierre, le foyer au ragoût, la table aux échecs, le fauteuil vide et le général gris du sud. En 6. La tablée qui écrit sa vie en train de se passer. En 7, les couvertures au mur, les tables rondes et 8, le bar qui prolonge. En 9, au centre, presque, une trappe, une table, des chaises. Un manège. On se déplace, prend la sienne, se pose, parle, on se tait et meurt. La caméra fait de même. À l'entracte, on remonte le temps, on reprend au générique, à la croix sur la piste enneigée, croisée des temps. On repasse les mêmes lieux en accéléré. Puis de nouveau le huis clos, la tuerie qui présage d'une fin qui ne tardera plus. On reprend le fil du temps, Tarantino s'amuse, moi aussi. À la radio, une autre, le masque et la plume décida un dimanche soir de parler du film, de le détruire, de se moquer de tout, de la musique qui ne vaut pas celle de... d'une histoire à la Dix Petits Nègres, pourtant très très bien, de Tarantino qui en perd un peu plus à chaque film, du snobisme de la pellicule 70 mm, car oui, à quoi bon filmer ainsi, à quoi bon ? Chers amis d'Inter, chroniqueurs sans esprit ni regard critique, paresseux de l'ouvrage ou fatigués, la prochaine fois, plutôt que de vouloir séduire vos auditeurs attitrés, taisez-vous et observez.
Merci Emmanuel. Ils ont pris cher les chroniqueurs de France Inter.
Non, c'est vrai que c'est trop facile.
Merci à toi. Tu le sais, mais le film, malheureusement, je ne l'ai pas encore vu. Qui l'a vu le film en studio?
Ouais.
Oui. Ah, quand même. Daniel l'a vu. Émilien?
Moi, j'ai vu. Forcément, c'est un film fétiche pour moi. C'est Sept Samouraïs.
Ah
magnifique.
Oui.
Magnifique.
Ouais,
magnifique.
Ouais.
Et donc il y a énormément de similitudes, et les sept samouraïs sont réunis par les villageois vraiment dans un espace carré, oui, découpé en neuf. J'ai re-regardé exprès les sept samouraïs. Alors le plan est moins clair, c'est-à-dire que la caméra tourne beaucoup moins, il n'y a pas le jeu de Tarantino, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'espace de Tarantino, la caméra ne sort jamais de l'espace. C'est génial. Et s'il n'y avait pas eu cette caméra pour filmer en 70 mm, ça ne marchait pas, il fallait enlever les parois.
Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à faire le lien entre la chronique d'Emmanuel et notre sujet, la démocratie participative? Francis, peut-être, a une idée.
Il m'a décontenancé, effectivement, avec cet épisode sur les sept samouraïs, où je revois toujours cette scène du jeune qui est allongé dans les chrysanthèmes, et je trouve cette scène admirable. Mm-hmm. Elle est pleine de plénitude et autres. Non, il y a le côté révolte.
Oui.
Il ne faut pas oublier.
Et puis peut-être que l'un de vous pourra conclure l'émission en criant non pas vive le cinéma, mais vive la démocratie participative, avec autant d'énergie qu'il a pu le faire.
Et sans le sabre.
Est-ce qu'on est obligé de parler, c'est un débat qu'on avait un petit peu tout à l'heure, de démocratie participative, est-ce qu'on n'est pas plutôt amené à parler de démocratie, tout simplement.
Tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on revient au sens premier de la démocratie, la définition qu'on en donne, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, finalement, c'est tout ça, simplement. Alors, il est 20h57, il nous reste moins de 3 minutes pour continuer à parler très rapidement de cette démocratie participative. J'aimerais vous proposer un tour de table, que chacun d'entre vous puisse me dire ce qu'il faut, comment réenchanter cette démocratie. Est-ce que vous avez une idée, une piste, une attente que vous aimeriez exprimer avec les auditeurs d'HDR ce soir?
Bon, je peux commencer, effectivement.
Francis.
J'avais noté. Souvent, ce qui nous est reproché au niveau des associations ou même du lambda, c'est qu'en fait, discuter trop d'un projet, c'est beaucoup de perte de temps. Et moi, je dis que co-construire les projets peut permettre d'en gagner, en évitant les blocages à un stade avancé du processus. Ça me paraît important qu'effectivement, on ait l'impression qu'en fait, on est plutôt à co-construire que à déconstruire.
D'accord, voilà. Une militance pour et avec. Louise ou Daniel? Louise?
Oui.
Daniel.
Que vous dire? Vendredi dernier, nous avons rencontré un ministre d'État, enfin, secrétaire d'État, il paraît.
La ville.
Et politique de la ville. Donc, quand je lui ai dit que c'était quand même très long, et qu'on va se mettre au travail dans... Je serai décédé, d'ailleurs. Et qu'elle... Il y a longtemps qu'elle ne sera plus là.
Oui.
Ça n'a pas... Ça n'a pas fonctionné. Hein. Mais c'est démocrate quand même.
Donc vous restez très dubitatif, Daniel. Louise.
Oui, non, mais j'y crois quand même. Mais
il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Louise.
Moi, je crois que dans un premier temps, il faudrait refaire la charte en ce qui concerne les conseils de quartier et non nous l'imposer.
Ouais.
Il faudrait que ce soit nous qui la fassions et qu'on fasse la même chose pour les conseils citoyens.
Voilà. Bah oui, quitte à être participatif, autant que ce soit dès l'origine du processus. Il nous reste quelques secondes, Marie, peut-être, ensuite Emmanuel et Emilien pour aussi un mot de la fin.
Juste dans le reportage d'Emilien, il y avait des gens qui disaient rien ne change, ça change pas. Et peut-être que justement, pour que ça change, il faut que ça commence par individuellement, chacun change son regard et change sa façon d'être.
Très bien, merci Marie. Emmanuel.
D'où le militantisme.
Oui.
Moi j'ai une citation de Deleuze.
Très bien, vas-y.
Voilà, c'est « Dès qu'une autorité se croit légitime, elle demande à être déconstruite ».
Ah, on pourrait faire toute une émission là-dessus, je pense.
Ouais.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé là-dessus. Emilien.
Et juste un mot, je pensais aussi au numérique.
Oui.
Voilà, la façon dont on peut l'investir pour plus de démocratie, tout simplement.
Et oui, le numérique aussi, une piste pour donner de nouveaux espaces démocratiques. Merci à vous tous. Il sera 21h dans 10 secondes. Je vous souhaite une très très belle soirée sur HDR, évidemment. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, soyons toujours curieux. Et non, c'est pas ça, c'est ce que je dis à la télé. Continuons de rêver, je crois que ça se finit comme ça. Ciao, bonne soirée.
Blague aussi.